ça va bien. Bon, bonjour, ça va. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 13 mars 2010, puis je vais causer avec le frère Camille Légaré, qui a passé un certain nombre d'années à l'école secondaire de Saint-Claude. Bonjour, frère Légaré.
Bonjour.
Bonjour. Alors, là, vous êtes rendu à Saint-Boniface, et puis là, avant de commencer, pour savoir, je veux juste savoir un peu votre histoire personnelle. Où vous êtes né, je ne demande pas quand, où vous êtes né, puis qui étaient vos parents, puis tout ça, là.
Alors, moi, je suis originaire de Dunray, Manitoba, dans l'ouest de la province.
Oui.
Et puis, mes parents, mon père s'appelait Lucien Légaré. Lui est originaire du Québec, il venait de Charlebourg, au Québec. Il est arrivé au Manitoba à la fin du 19e siècle, vers 1890, dans les 90, je crois, alors qu'il était jeune garçon, il avait peut-être 17 ans.
Ah bon? Mm-hmm.
Et puis, ma mère s'appelait Emma Nadeau. Elle était originaire de Saint-Joseph, au Manitoba.
Oui.
Je crois que son oncle avait été curé à Dunray, l'abbé Wilfrid Jubainville. Et puis, je crois que c'est comme ça qu'une de ses sœurs, des sœurs de ma mère, est venue enseigner à Dunray. Son oncle était là.
Ah bon?
Et c'est comme ça, à un moment donné, que mon père a rencontré. Parce que les deux, mon père avait un autre frère, Barthélemy Légaré, à Dunray. Mm-hmm. Et puis, les deux frères ont marié les deux sœurs.
Ah bon,
de Saint-Joseph, Manitoba. C'est comme ça que...
Oui. L'histoire a commencé.
L'histoire a commencé, oui.
Oui. Alors là, vous avez passé votre jeunesse à Dunray?
J'ai passé ma jeunesse à Dunray. Et puis, on avait une petite école de campagne, non? L'école Saint-Félix de Valois, qui était tout proche de chez moi, à peu près un quart de mille. Et puis, alors, j'ai été à cette école-là de la première à la huitième année. Pour le secondaire, il fallait aller au village. Les Sœurs Oblates enseignaient au village. C'était l'école publique, mais c'était les Sœurs Oblates, à ce moment-là, qui enseignaient. Et il y avait là, de la première à la onzième année. Alors, je suis allé pour faire 9, 10, 11 au village, mais pour la douzième, j'avais le choix entre aller à Brandon. Il y avait un high school à Brandon. J'avais un de mes frères qui demeurait là. J'aurais pu aller chez mon frère qui demeurait là. Et puis, soit aller à Auburn, parce qu'il y avait le pensionnat à Auburn.
Oui.
Et mon cœur penchait davantage vers Brandon, parce qu'il me semblait que j'aurais un peu plus de liberté. C'était un âge où j'avais plus de liberté.
Pourquoi pas?
Et puis... Bien, ma mère, elle, et mes parents auraient certainement préféré que j'aille à Auburn, tu sais, parce qu'il y en avait d'autres jeunes de Dunray qui étaient à Auburn. Et puis, c'était catholique, puis c'était francophone. C'était, pour elle, c'était un meilleur choix. Et puis, j'avais deux anciens compagnons de classe qui avaient été, les autres, faire la 11e et la 12e, je crois, au moins la 12e à Auburn. Et puis, ils avaient beaucoup aimé ça. Puis je leur ai parlé, puis ils m'ont recommandé d'y aller.
C'était qui, ça?
C'était Clément Fortier, pour un, puis l'autre, c'était pas des Émile Bisson. C'était deux familles de
Dunray, oui.
Et puis, ils m'ont encouragé d'y aller, parce que les autres avaient beaucoup aimé ça. Ils ont dit, oh, vas-y. Alors, ça m'a encouragé d'y aller. Et quand j'ai fait le contact, la rencontre des clercs de Saint-Viateur, j'ai beaucoup aimé les confrères, qui sont devenus mes confrères, mais j'ai beaucoup aimé les professeurs qui étaient là. Et puis,
Qui c'est qui était là, disons, quand vous êtes arrivé?
Quand je suis arrivé là, moi, il y avait un nouveau supérieur qui était un ancien provincial, le père Louis-Philippe Fafard, qui était un homme extraordinaire. Et puis, le directeur de l'école du collège, qu'on appelait le principal dans le temps, était le frère Léo Charlebois. Lui aussi avait commencé à enseigner à Saint-Pierre. Après ça, il était venu au collège à Auburn. Et puis, parmi les professeurs, il y avait le frère Fernand Marion, le frère Jean-Paul Robinson, le frère Gérard Fontaine. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait pour dire ça? Non, le frère Jean-Marie Lamoureux. Qu'est-ce que c'était son nom encore? Qui m'échappe. Père Ouellette? Non. Il me semble qu'il y avait un qui s'appelait le père Ouellette qui nous a enseigné. En tous les cas, j'avais aimé. Puis, ensuite de ça, quand on vit dans un pensionnat, on devient très proche des étudiants. Ça reste toujours toute notre vie. Je rencontre des anciens du collège. on s'est pas vu depuis. Tu sais, tu dis, ah, c'était un temps. On veut se parler, on veut se rencontrer. Il y a quelque chose que. Je sais pas, c'est le fait de vivre ensemble 24 heures par jour, de dormir dans les mêmes dortoirs, de manger aux mêmes tables, même classe, tout ça. On créait une intimité, je pense. Et, alors, c'est devenu de bons amis. Puis, puis c'est là qu'à un moment donné, ben, j'ai pensé à cette vocation, possiblement, tu sais, de devenir. Et on était partis quatre quand même, hein? Ça a été surprenant, ça, c'est la première fois que ça se produisait, je pense.
Vous êtes partis quatre?
On est partis quatre finissants de 12e année. Sur huit finissants, on est partis quatre pour s'en aller au noviciat à Rigaud.
C'était qui, vous?
Et... C'était moi, il y avait Louis Courcel, Roland Caillard, puis on avait Raymond Comeau qui venait de La Salle. Roland, Louis Courcel venait de Sainte-Agathe et Roland Caillard venait de Saint-Georges. Eux avaient été au collège pour beaucoup plus que moi. Ils étaient au collège au moins de 3-5 ans pour l'ensemble des autres qui étaient là. Mais moi, j'avais été juste pour la 12e année. Alors, on est allé au noviciat. Raymond Comeau n'a pas resté longtemps. Il est parti pendant le noviciat. Louis Courcel et Roland Caillon, on a tous fait nos voeux. On a vécu ensemble
combien
plusieurs années.
Combien de temps c'était un noviciat?
Un an.
Un an,
OK. Un an à Rigaud, dans un site enchanteur. Rigaud était magnifique comme lieu. Quand on parle de la montagne de Rigaud, et moi, l'année que je suis allé, on a eu un automne extraordinairement beau.
Coloré aussi.
Alors, c'est devenu une montagne qui était de toutes les couleurs. C'était magnifique. Puis, il n'y a pas venté cet automne-là. Il n'y a pas plu vraiment. Alors, les feuilles ont changé graduellement dans toute leur splendeur. C'était incroyable. Vous pour quelqu'un d'ici, nous autres, on voit les feuilles tourner jaunes, suivant le vent. Il n'y a pas prendre plus de temps pour le coucher à terre. Mais là, ça avait été. Puis les arbres changeaient de couleur. Tu voyais, à un moment donné, les arbres étaient verts au bas, jaunes au milieu, rouges au sommet. Puis après ça, ça graduellement, ça devenait tout rouge parce que c'est une plaine d'érables à sucre. Alors, il y avait tous ces arbres-là qui devenaient... puis il y avait beaucoup de sapinage aussi. Alors, ça faisait un décor.
Le ciel, un peu?
Hein?
Le ciel, c'était pas comme le ciel, presque un peu, pour
pas encore, non, vraiment, mais c'était vraiment beau. Magnifique comme paysage. Alors, c'est ça, on a fait un an. Puis après ça, bien nous, on venait du Manitoba, les trois du Manitoba. Il y avait une tradition dans ce temps-là, qu'on partait du noviciat puis il nous faisait faire une expérience d'enseignement, tout de suite. C'était un gros défi, ça. Alors moi, je l'ai fait dans une école de Montréal, Roland Caillat aussi. Louis Courcel, lui, était revenu. Il avait envoyé Louis Courcel, il avait besoin de quelqu'un à Saint-Pierre. Alors, il était venu enseigner à Saint-Pierre. Et, alors j'ai fait ma première année d'enseignement, puis ça a été extrêmement... J'ai trouvé ça très, très
difficile. C'est quel niveau?
Quatrième année. Puis... J'avais juste des garçons. Il y en avait 38.
Toutes les matières?
Toutes les matières. Tu faisais tout. Tu faisais tout. Même l'éducation physique. Puis il y avait du solfège. Puis on n'en faisait pas beaucoup, il faut dire. Mais tout ça, j'ai eu un avantage, par exemple. Je savais l'anglais. Puis il faut l'enseigner de l'anglais à partir de la quatrième année. Alors ça me donnait un avantage. Là. Même les autres professeurs... m'enviaient parce qu'eux autres, ils enseignaient de l'anglais puis ils ne savaient vraiment pas trop. Alors, c'était du vocabulaire plutôt. Pas toujours très bien prononcé.
oui.
Là, c'est ça. Puis après ça, là, j'ai été fait à l'école normale.
Ici?
Et non, ici. Non. Au Québec, on avait une école normale à Rigaud. Tout proche du noviciat, j'ai fait un an. Parce que moi, vois-tu, il y avait des cours, il y avait des brevets qui étaient d'un an, de deux ans, de quatre ans. Et Roland Caillat et moi, on a fait le brevet de deux ans, d'un an, pour nous permettre d'enseigner, puis tout en continuant des études à l'Université d'Ottawa. Alors, on allait suivre des cours d'été à l'Université, je fais ça plusieurs années, suivre des cours d'été à l'Université d'Ottawa, des cours par correspondance pendant l'année à l'Université d'Ottawa. Et puis, finalement, à un moment donné, on a pris une année à plein temps, puis on est allé terminer notre baccalauréat.
En éducation.
Ouais. Alors, c'était une belle expérience. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait connaître le Québec beaucoup. J'aimais beaucoup l'Université d'Ottawa. C'était les Joblocs à l'Université d'Ottawa. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, après ça, après avoir terminé à Ottawa, j'ai fait une année à Montréal. Il appelait ça l'Institut pédagogique Saint-Georges. J'étais rattaché à l'Université de Montréal. Et puis là, j'ai fait un brevet d'enseignement qui me permettait d'enseigner plus haut, si tu veux, j'ai appris à enseigner. Mais à ce moment-là, on a eu besoin de nous autres au Manitoba, puis je suis revenu au Manitoba en 1964. Alors, j'ai fait 10 ans au Québec. Mm-hmm. Après ça, je me suis envenu au Manitoba en 64. Mm-hmm. Après ça, j'ai travaillé au Manitoba.
Puis là, vous arrivez au Manitoba. Puis là, où est-ce qu'on vous place, là?
Au Collège Saint-Joseph-Otterburn.
Ah bon?
C'est là que je suis allé.
Ah, oui.
Et puis là, j'enseignais là pendant 3 ans, jusqu'à la fermeture en juin 1967. J'ai beaucoup aimé ça.
Quel niveau, là? Plusieurs niveaux.
Ben. J'enseignais de la 9e à la 11e année.
Mm-hmm.
Oui. Et puis, ça m'a plu beaucoup parce que quand j'avais été au Québec, j'avais toujours enseigné à l'élémentaire.
Ah,
puis,
oui.
J'étais pas à l'aise à l'élémentaire. J'étais pas vraiment mon milieu, ça. J'étais, je sais pas, les jeunes, j'avais pas le tour avec eux autres. C'est peut-être parce que moi, vois-tu, j'avais été le plus jeune dans la famille.
Mm-hmm.
J'avais pas eu de plus jeune, tu vois, pour voir, ben, t'es habitué à travailler avec avec des plus jeunes. Alors, mais quand je suis arrivé à Auburn avec le secondaire,
c'est parfait.
C'était très, très bien. J'ai eu beaucoup de bonnes relations avec les étudiants du secondaire et t'entends très bien que ça, tu on était jeunes, on était jeunes à ce moment-là, puis alors on rentrait bien en relation avec les jeunes du secondaire, puis bon, ça m'a plu beaucoup, mais avec la refonte de tout le système scolaire, là, en 67, le gouvernement avait fait voter pour les grandes unités scolaires, et puis ça s'est fait au mois de mars, je me rappelle, puis là, ça a passé, tu sais. Et disons des divisions comme la division Seine, la division scolaire rouge, d'où nous avions beaucoup d'étudiants.
Ah,
on recevait beaucoup d'étudiants de ces divisions scolaires-là, à tel point qu'il y avait une entente, particulièrement avec la division scolaire de la Rivière-Rouge, où, dans laquelle on était situé, pour qu'au moins 2 professeurs soient payés comme ils donnaient un montant d'argent, sinon le salaire complet, parce qu'il y avait tellement de leurs étudiants qui venaient au collège. Alors, nous autres, ça nous est. Parce que, tu sais, les ressources financières étaient. C'est tout du monde qui enseignait à peu près pour rien, ça. T'sais. Et puis, alors, ça nous donnait un très bon coup de pouce.
Ben oui.
Là-dessus. Puis, le frère Marion était directeur. Alors, lui, c'était un gars de la Sainte, c'était un gars de la Rouge, et tout ça. Et avec tout cet changement-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Là, ces étudiants-là n'avaient plus de raison parce que le gouvernement avait beaucoup d'argent dans le temps. Et puis, alors, ils finançaient les écoles nouvelles, des gymnases, des flottes d'autobus scolaires, et tout ça. Alors, c'était l'abondance. Il n'y avait plus de raison de venir chez nous. Et puis, il y a eu des efforts de fait pour voir est-ce qu'il y aurait moyen de recombiner. Ça ne va pas trop comment faire.
Oui.
Mais nous autres non plus, on ne voulait pas être dans les jambes de tout le système, vois-tu, pour nous plaire, parce qu'ils disaient pour nous accommoder, si tu veux. Puis on n'était pas au centre de la division scolaire. Si on avait été plus central, ben peut-être que les écoles, on aurait pu avoir quelque chose chez nous, on aurait peut-être pu faire une espèce d'association, on serait devenu l'école centrale, puis ils seraient venus. Mais on était dans la limite, on était près de Saint-Pierre. Hein? Alors, des places comme Sainte-Agathe, Saint-Jean-Baptiste, les Telliers, tous ces coins-là, ils étaient tous à l'autre bout, vous autres. Alors, ce n'était pas vraiment. Et puis là, Saint-Claude, depuis longtemps, l'abbé Jean-Marie Gagné aurait aimé que les clercs de Saint-Viateur aillent à Saint-Claude. Apparemment, il avait demandé dans le passé pour qu'on aille à Saint-Claude, puis tout ça, pour qu'il y ait des hommes avec des garçons, puis ainsi de suite.
Oui.
Alors, à ce moment-là, on a accepté de.
Ça, c'était en 67, ça?
Pardon, en 67.
C'est
entre le mois de mars et le mois de juin. Ça s'est fait très vite, vois-tu? Là, il y a eu des réunions avec la division scolaire, là, après, les gens sont venus de Montréal, et puis, là, il y avait ces offres-là, vois-tu. On pouvait aller dans la Rouge, ils auraient voulu nous avoir comme professeur à Saint-Jean-Baptiste. Puis, dans la montagne, Saint-Claude nous demandait. Et puis, la division scolaire de la Rivière-Rouge qui s'organisait, voyant Fernand Marion, un très bon homme pour prendre la direction comme surintendant. Au directeur général, au surintendant,
on disait dans ce temps-là.
Alors, là, on a discuté de tout ça. Les officiels sont venus du conseil provincial à Montréal, faire réunion communautaire. Puis, on a décidé de fermer le collège. Parce que on aurait eu, pour pouvoir nous financer, on ne voyait pas comment est-ce qu'on aurait pu se financer. Là, on avait un bon nombre d'étudiants qui venaient, on avait au-delà d'une centaine qui venaient, 100, 125 peut-être, 130. Et puis, alors, avec le montant qu'ils payaient, on réussissait à se financer,
Oui.
plus les salaires qui nous étaient payés par la division scolaire de la Rivière-Rouge. Mais, perdant les salaires de la division scolaire de la Rivière-Rouge, perdant tous ces étudiants-là qui venaient, on aurait eu qui serait venu, tu sais? Des élèves de division scolaire éloignée, peut-être quelques-uns de la ville. Et puis, on ne pouvait pas voir. Alors, il a fallu qu'on augmente la pension. Les gens ont trouvé que c'était une augmentation peut-être trop. Alors, ça devenait extrêmement difficile. Ça a été très pénible au niveau communautaire, spécialement pour nos confrères plus âgés qui étaient à Otterburn, qui n'étaient plus dans l'enseignement et qui voyaient une œuvre qu'ils avaient travaillée, ils avaient donné leur vie à travailler. Il y en avait qui avaient travaillé de nombreuses années, qui voyaient ça se fermer pour. T'sais. Ça a été dur, ça a été très dur communautairement parlant. Et puis, mais on est parti quatre pour aller à Saint-Claude, et puis quatre pour aller à Saint-Jean-Baptiste, puis c'est.
Puis il n'en restait plus, Otterburn.
Non, non, il restait plusieurs vieux confrères, mais plus des professeurs.
Non.
Certains confrères qui étaient professeurs, qui étaient venus du Québec, sont retournés au Québec, eux autres, mais même s'il y en avait qui étaient du Québec ici, ils sont restés quand même. Mais pas. Saint-Jean-Baptiste, ils sont partis presque immédiatement, mais à Saint-Claude, on était restés. On était quatre, on a toujours été quatre à Saint-Claude.
Alors là, vous êtes arrivé en 67,
En
en
septembre,
septembre,
pour septembre
60.
67 à Saint-Claude.
Alors, OK,
Ouais.
mais là, Otterburn est toujours ouvert pour les anciens, là, hein?
Non, non,
Non,
non,
c'était
il n'y
fermé?
a plus rien.
Il n'y a plus rien.
C'était fini.
C'était pas
C'était fini.
vendu ni rien,
C'était
là.
pas vendu encore. Là, il fallait trouver quelque
Un
chose,
acheteur,
quoi faire pour
oui.
pouvoir s'en défaire, parce qu'on ne pourrait pas garder une grosse affaire comme ça, puis sans revenu, vois-tu. Il faut que tu
Ben
l'entretiennes pour
oui,
pas que
puis des
tu le
coûts, ça.
gaspilles, puis tout ça. Alors, c'est resté comme ça. Puis nous, on est allé à Saint-Claude. Moi, je suis allé à Saint-Claude avec le frère Aimé Auniel-Dépau, qui était à Otterburn, avec le frère Réal
Oui,
Saint-Pierre,
attendez. Aimé.
Aimé
Ah
Auniel-Dépau.
oui, je me souviens, les boîtes à chansons.
Oui, c'est ça.
Et puis le frère Saint-Pierre.
Le frère Réal Saint-Pierre.
Réal,
Lui,
OK.
il n'y a pas de H dans
Ah
son
oui,
nom.
OK.
C'est oui. Saint-Pierre. Puis le frère Richard Boulay.
Ah, je ne me rappelle pas de celui-là,
Non,
là.
Richard Boulay a passé que 4 mois à Saint-Claude. Et puis, il est reparti au mois de décembre.
Ah bon, OK.
Puis, il a été
C'est un bruit.
remplacé par le frère Jean-Claude Thériault.
Merci. Jean-Claude Thériault. Bon,
Ouais.
ça, c'est des noms là que je me.
T-H-E, R-I-A-U-L-T. Lui a été 2 ans.
Alors,
Il a été 2 ans à
lui,
Donnery.
est-ce que c'était. Richard Boulay, c'était un. Vous étiez tous
Richard
des.
Boulay venait de Donnery, c'était un
C'est
gars, c'était
tout.
un
Oui,
Manitobain.
c'est tous des frères, ça.
Oui, tous des frères.
Alors, OK.
Ouais.
Pourquoi est-ce que. Là, je vais vous demander ça tout de suite, là. Pourquoi est-ce que quelqu'un veut être. Je te peux dire un frère au lieu d'un père. Un père, c'est un prêtre, hein?
Ouais, c'est ça.
Sais-tu que c'est un choix personnel, sûrement?
Ouais,
Ou
ouais.
bien, c'est quelqu'un qui vous a
Ben, la fondation,
conseillé?
la communauté avait été fondée pour que ce soit des frères.
Ah bon?
As-tu? Et un prêtre, des prêtres pour les besoins de la communauté, pour avoir pas un chapelin, mais un aumônier, si tu veux, dans une résidence. Des fois, tu avais une résidence avec plusieurs confrères. Alors, pour avoir un prêtre, pour avoir la messe tous les jours, puis tout ça. Alors, il y en avait quelques-uns qui étaient ordonnés prêtres, comme ça. C'était la vision du fondateur, quand on a été fondé en 1831, quoi, en France, à Lyon. C'était dans le diocèse de Lyon, par le père Louis-Marie Kerbe.
18-21?
Pardon?
La fondation.
Disons, c'est ça, tu peux dire 1831, ça a été fondé dans le diocèse de Lyon. Louis-Marie Kerbe.
De Lyon.
Ouais.
Alors, on écrit ça. Louis-Marie.
Louis-Marie Kerbe. C'est un
Comment est-ce qu'on écrit Kerb, là?
Q-U-E-R-B-E-S. C'est Kerbe et non pas Kerbès.
Kerb. Ah,
Ouais,
oui.
Q-U-E-R. Ouais.
Ça sonne presque alsacien, mais enfin.
Ouais. Alors, ça a été fondé par lui. C'était après la Révolution française, hein? Peu après, lui est né pendant la Révolution française à Lyon. Et puis, Il a été, il a fait ses études plus tard en théologie, il a fait ses études, puis il est devenu prêtre diocésain du diocèse de Lyon.
Ah bon?
Et puis il avait été nommé dans une petite paroisse qui s'appelait Voul, Voules. C'est le berceau de la communauté commencée là. Et c'est là qu'il lui est venu son idée de former sa communauté, qui n'était pas une communauté religieuse au départ. Il voulait tout simplement faire une espèce de fraternité, une confrérie de laïcs. Parce qu'il y avait des besoins criants au niveau des écoles. Il n'y avait pas d'école. Il y avait des professeurs itinérants qui, souvent, des fois par main, ne savaient même pas lire, mais ils s'improvisaient comme professeurs, puis ils venaient des écoles. Puis une façon de faire, c'était souvent pour contrôler les élèves. Comme il n'y avait pas trop à leur faire faire, il les battait, puis il les disciplinait, pour le, tu sais, bon, puis il les faisait apprendre. Bon, alors il trouvait ça pitoyable comme situation. Alors il s'est dit, il faudrait former des laïcs pour enseigner dans les écoles.
C'était ça
Puis,
son
parce qu'il y avait du côté féminin, il y avait plus de communautés, il y avait des communautés religieuses de femmes. Ça fait pas longtemps après la Révolution française, ils étaient obligés de vivre cachés, puis après ça, ils ont sorti un petit peu, puis il y a des fondations. Il y a eu beaucoup de fondations de communautés dans le diocèse de Lyon au 19e siècle, grand nombre, hommes et femmes. Et puis, alors nous autres, on est là. Ça a commencé comme ça, et puis il y a eu des difficultés avec son évêque, parce que l'évêque n'était pas d'accord, tout ça, tu sais, les laïcs, trop de. Et lui, il avait vu que. Dans le catéchisme, dans le concile de Trente, qui avait lieu dans les 1500. Okay? Non. Dans le concile Vatican I. Vatican I, dans les années 1800, fin 60. Attends un peu là. Je crois que les affaires sont de travers là. C'est lui. Non, le Vatican II a eu lieu vers 69-70, 1869-70, donc c'est pas Vatican I, je veux dire, c'est pas Vatican I, c'est catéchèse du Concile de Trente. Il y avait eu, je pense, dans l'allusion là-dedans, on avait dit qu'il pourrait y avoir des. Je pense que c'était des diacres. Il y avait quelque chose pour les laïcs, là, tu sais, qui est venu il n'y a pas si longtemps. Mais lui, il avait vu ça. Il y avait quelque chose là-dedans qui l'avait inspiré à faire quelque chose avec les laïcs, que les laïcs peut-être pourraient avoir un rôle plus important dans l'Église. Parce que notre fondateur était un homme, je veux dire, extraordinaire. Je te donne un détail qui moi, m'a surpris beaucoup. À un moment donné, j'ai réalisé ça. Avec la réforme, quand le protestantisme s'est développé dans les années 1500, les protestants ont pris, avec Martin Luther, ont pris comme seule autorité la Bible. On se bat, tout est basé sur la Bible. Alors, tout ce qui est hiérarchie, Rome, tout ça, on met ça de côté, puis ça d'abord, ce qu'on appelle la tradition. Alors, à ce moment-là, il y a eu comme un schisme, si je sais bien, grand, ça, puis qu'est-ce que c'est le mot que je voudrais utiliser là? Beaucoup d'hostilité même, tu sais, entre les groupes. On sait comment c'était nous autres, même quand on a grandi, protestants et catholiques. Les gens encore, c'est pas si loin de nous autres, on a connu ça. Mais les protestants, c'était toujours la Bible, puis les catholiques, pas de Bible. Vraiment. On avait la Bible, mais personne ne lisait. Actuellement, moi, je donne des cours de Bible depuis 25 ans. OK? Session biblique. Et puis, quand je donne les sessions, je demande toujours aux gens, combien chez vous, combien y en a-t-il d'entre vous qui aviez une Bible à la maison? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui avaient la Bible à la maison. Quand il y en a qui lèvent la main, souvent, ce sont dans les groupes anglophones ou ce sont des convertis au catholicisme. Alors, il y avait une Bible chez eux, mais les catholiques, très rarement. Et s'il y en avait, elle ne servait pas vraiment. Elle était là, il savait qu'elle était là, mais ça, c'est très, très, très rare. Alors, il n'y avait pas d'utilisation de la Bible. On ne lisait pas la Bible. Dans les écoles, quand j'étais à la petite école, puis tu as peut-être connu ça, on faisait, au temps du catéchisme, l'histoire sainte. Tu connais ça, l'histoire sainte, hein? Bon, c'était les récits, les histoires de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament. Alors, je me rappelle, on commençait, il y avait la création du monde avec Adam et Ève, puis tu avais le déluge, puis tu avais Abraham, puis tu avais le sacrifice d'Isaac, puis tu avais Jacob, puis Isaac,
puis un portrait, oui.
Tu sais, puis il y avait toutes des images en blanc et noir, là, pour illustrer ça. J'ai, à ma grande surprise, réalisé, une fois entré en communauté, que ce livre-là était publié par les Tiers Saint-Viateur.
Ah bon?
Oui.
J'en ai encore une histoire sainte chez nous.
C'est vrai?
Je vais regarder. Oui.
Ah ben ça, c'est précieux. Tu laisseras ça à la société historique. Non, parce que lui, imagine-toi, Ça m'émerveille encore. Quand il a pensé à sa fraternité, là, confrérie pour des laïcs, il avait déjà établi qu'est-ce que c'est qu'il irait dans la Bible à tous les jours.
À ce monde-là?
À ce monde-là. Là, ce bon monde-là, dans les années, il avait pensé à ça dans les années 1820.
Ah bon, mon Dieu.
Okay? Et puis, c'est devenu un exercice très important pour les frères. Mm-hmm. Okay? Tous les frères en communauté. On lisait ce qu'on appelait la légende.
Ça a l'air drôle, comme terme. Non, c'est un beau terme. Ouais.
C'était, il y avait trois lectures. On faisait une lecture le matin. Le matin, on faisait une lecture du Nouveau Testament. Mm-hmm. Le soir, l'Ancien Testament.
OK.
OK, parce qu'on avait deux, on faisait ça le matin et le soir. Mm-hmm. Alors, il y avait l'Écriture Sainte, le catéchisme du Concile de Trente, qui était, aujourd'hui, on a le catéchisme de Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique. Mais à ce moment-là, le dernier qu'il avait fait, c'est le Concile de Trente. Mm-hmm. Et puis, l'Imitation de Jésus-Christ. Mm-hmm. Trois livres qu'on lisait. Mm-hmm. Parce que nous autres, comme catéchistes, il fallait baser notre doctrine sur le catéchisme du Concile de Trente, comme aujourd'hui, on se baserait sur le catéchisme de l'Église catholique. Alors, toute ma vie religieuse, j'ai lu la Bible le matin et le soir. Puis c'était programmé de façon qu'on lisait à peu près l'entièreté de la Bible. Pas tout, mais on touchait beaucoup de l'Écriture sainte. Alors ça devenait familier. Et puis j'ai toujours eu un intérêt comme ça pour l'Écriture sainte. C'était comme naturel. Et j'ai vérifié auprès d'un de mes confrères qui est vraiment un expert dans la vie de notre fondateur. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il leur faisait lire au 19e siècle, dans les années 1830? Qu'est-ce qu'il lisait comme... Parce que la Bible, t'as pas traduite, t'as tout en latin.
Ah oui.
Mais il y avait eu des traductions, à un moment donné, qui avaient été faites. Et puis, c'est ça qu'il disait. Mm-hmm. Alors, lui, puis j'ai demandé, j'ai dit, y a-t-il d'autres communautés religieuses qui ont fait ça? Il dit, je ne sais pas, là, j'ai pas l'impression. Parce que ça se faisait pas, dans ce temps-là. Les prêtres lisaient le bréviaire. Ceux qui étaient ordonnés lisaient le bréviaire. Mm-hmm. Mais les frères, on lisait le puis tant que les frères qui n'étaient pas ordonnés, ils faisaient le même exercice, hein, tu sais. Quand ils étaient au scolaire de théologie, par exemple, ils faisaient les mêmes exercices que nous autres. On disait tous l'Écriture sainte. Alors, je dis, c'était une ouverture qu'il avait, qui était loin en avant de son temps.
Il était en avant de son temps.
Elle est loin en avant de son temps. Et deuxièmement, dans sa communauté, son évêque, qui est Rome, en fin de compte, parce qu'on a été reconnu officiellement... On est devenu une congrégation qu'on appelle cléricale, c'est-à-dire qui relève de Rome, okay, en 1838. Il avait été à Rome, il a obtenu la reconnaissance officielle par Rome de sa communauté comme une communauté qui relevait de Rome, canonique, cléricale. Et puis... à ce moment-là, il a été très désappointé parce que dans sa communauté, qui étaient tous des hommes comme on est aujourd'hui à vœux, qui font les trois vœux de toutes les communautés, il voulait avoir des laïcs, lui, là-dedans. Il voulait avoir une branche de laïcs. Et quand il est arrivé à Rome, le jésuite on dirait en anglais qu'il coachait, qu'il le dirigeait, lui a dit, parle-en même pas. Parce que si tu en parles, ça va tout retarder le processus pour ta communauté. Il voyait, lui, que ça sera pas accepté. Alors, il a donc laissé tomber cet aspect-là. Sa communauté a été reconnue du temps qui était long, ce qui était rare. Des fois, c'était un processus qui était enclenché, puis là, Rome, ça donne. Lui, il a passé plusieurs mois à Rome, ça a été extrêmement pénible parce qu'il était malade le temps qu'il était là, c'était un autre climat. Rome, à l'été, il était là à l'été, c'était une chaleur, alors, mais il est revenu avec sa charte, officielle reconnue de sa communauté. Et puis, mais pas les laïcs. Puis là, il a essayé. Avec son évêque, il y a eu un nouvel évêque qui est un cardinal, je pense, à un moment donné. Et puis, il n'a pas d'attente. On a repris ça en 1978, je pense, après Vatican II. Là, on a fait toutes sortes de réajustements après Vatican II. Puis là, nous autres, on est allés chercher ça. On a dit, dans notre communauté, c'est notre fondateur. Parce qu'il nous disait, il faut retourner au charisme du fondateur.
Du fondateur. Mm-hmm. Tu
sais, alors, il faut retourner son charisme. Il voulait, lui, qu'il y ait une communauté avec des laïcs. Mm-hmm. Alors, on est revenu à ça. Et puis, actuellement, dans notre communauté, qui doit avoir à peu près 600 religieux en tout, là, où on est, à peu près 600 religieux, on a aussi à peu près 280 laïcs qui font partie de notre
communauté. Alors, comment vous les appelez, les autres?
On appelle ça maintenant la communauté viatorienne. Ce n'est pas encore reconnu officiellement par Rome, hein, ça. Mm-hmm. On le fait, comment est-ce que je dirais, ad experimentum, comme on dit des fois, à l'expérience, mais ça, c'est croissant.
Est-ce que c'est seulement des hommes?
Non, hommes, femmes, non, c'est des laïcs, là. Des hommes, femmes et laïcs. Et même s'il y avait des prêtres séculiers, il y en a à certains endroits qui veulent se joindre à nous, et ils peuvent, c'est possible. Mm-hmm. Mais on a encore à faire reconnaître ça officiellement par hommes, mais actuellement c'est en évolution, et dans certains pays aussi, ça va... un peu partout. Vois-tu, on est nous autres, on a cinq qu'on appelle provinces, vois-tu, alors au Canada, aux États-Unis, en Espagne,
en France,
ils sont devenus très peu nombreux en France, alors le statut est changé, ils n'ont plus une province. C'était trop compliqué d'avoir une province, pas seulement au niveau administratif, là, tu sais, à un moment donné, tu as plus de chefs que tu as de guerriers,
ça devient trop nombreux.
Mais au Chili,
on
a une qui a été fondée en 2003. Les autres, ils étaient là depuis 1952. Je pense que les Espagnols avaient été fondés au Chili. Puis ça avait augmenté. Et puis, ils sont devenus province officiellement en 2003.
Mais quand est-ce que... OK, il est à Lyon, il a fait son affaire. Qui c'est qui va penser on va aller au Canada?
Il a été demandé par l'évêque de Montréal dans le temps. Monseigneur, voyons donc, Bourgette.
Monseigneur
Bourgette était à l'évêque de Montréal. Il y avait deux diocèses, il y avait le diocèse de Québec, le diocèse de Montréal, tout ce qu'il y avait au Canada à ce temps-là.
Oui.
Puis il n'y avait pas d'autre. Et puis, alors Monseigneur Bourgette avait besoin d'enseignants et d'enseignantes. Alors il est allé en Europe pour aller chercher des communautés. Et il est devenu très ami avec le Père Kerb. Il a rencontré le Père Kerb, il est devenu très ami avec le Père Kerb. Et puis, le Père Kerb avait répondu, t'es un homme généreux, puis je pense que des fois, il a peut-être fait des décisions un petit peu trop hâtivement, là, pour essayer de répondre aux besoins de l'Église, parce qu'il était pour l'Église. Alors, il avait été demandé à Saint-Louis, aux États-Unis. Et puis, il avait été demandé en Inde. Alors, ceux de Saint-Louis, ça n'a pas marché. Ils ont été obligés, vois-tu, de quitter. Et puis, c'était embêtant, c'était tous des Français, puis aux États-Unis en anglais.
Mais oui.
Vois-tu, même s'il y avait beaucoup de francophones dans ce temps-là aux États-Unis, ça restait que c'était un autre. Et puis en Inde aussi, ça n'a pas marché. Alors, ça a été comme des échecs, ça. Mais Monsieur Bourgette voulait avoir des professeurs, ici. Alors, il a accepté d'en envoyer. Ils sont venus trois, si je me rappelle bien, en 1847.
Ah, mais mon Dieu, c'est bon.
Ouais. Ils sont arrivés en même temps, sur le même bateau, la communauté de Sainte-Croix.
Ah bon?
OK? Alors, la communauté de Sainte-Croix, ça, ce sont les gens qui ont l'oratoire Saint-Joseph, le frère André, c'est ça, c'est les frères, la communauté de Sainte-Croix. Et puis, il y avait les sœurs de Sainte-Croix aussi, parce que cette communauté-là avait deux. Alors, ils sont tous arrivés sur le même bateau en 1847, avec Monseigneur Bourgette ici. C'est comme ça qu'on a commencé ici. Et puis, alors on s'est répandu au Québec, si tu veux. Ça a été pénible au départ, mais après ça, ça c'est toujours
pénible,
pareil.
Oui. Hein?
Et alors, en 1903, Monseigneur Langevin avait un problème sur les mains. Il y en avait plus qu'un, probablement, mais il y avait celui-là. C'est qu'il y avait eu un orphelinat ouvert à Mackinac. Mackinac, ça, c'est tout près de Sainte-Rose-du-Lac.
Oh, Manitoba.
Manitoba, oui. Mackinac ou Manitoba. Et puis, c'était deux prêtres britanniques qui étaient venus ouvrir un orphelinat pour des orphelins britanniques. On entend parler actuellement, là, c'est depuis quelques années, pas depuis quelques années, que en Angleterre, à un moment donné, on a envoyé beaucoup d'orphelins dans
Oui,
les colonies.
oui.
On a envoyé beaucoup au Canada. Puis les gens sont en train de se regrouper, ces gens-là, actuellement. Ces orphelins qui sont venus de plusieurs générations maintenant, si tu
Oui.
veux. Mais ils sont venus ouvrir cet orphelinat-là, à Mackinac, avec des. Je dirais que c'était des grands adolescents. C'était des jeunes qui avaient peut-être 15, 17 ans, 18 ans dans ce temps-là. Vois-tu? Mais qui étaient orphelins. Puis les autres se disaient en Angleterre, j'avais lu un peu là-dessus à un moment donné, le Canada, c'est un pays d'avenir, c'est un pays d'agriculture. Là. On ouvrait les plaines, on était en train d'ouvrir les prairies, les homesteads se commençaient là, dans les prairies. Alors, ils les envoyaient ici avec l'idée de les former, de les faire travailler sur des fermes ou les former, puis après ça, qu'ils puissent s'installer par ici. Mais, ben, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer une. Le style de nos origines.
OK. Juste une seconde, je vais.